Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reprendre grossièrement ce qu'on a fait la fois dernière, en tout cas en résumé. Parce qu'en fait, je vais reprendre ce qu'on a fait et puis je vais essayer de le détailler, de le monnayer un peu différemment en m'appuyant davantage sur Jean Bobok. Donc, je vous souvenez, je vous avais parlé du gros bouquin de 700 pages qui est la thèse de Jean Bobok, qui s'appelle La Grande Métamorphose, une théo-anthropologie orthodoxe. Voilà, publié au CERF il y a 2 ans, je crois. Voilà, Jean Bobok, La Grande Métamorphose. Voilà. C'est un livre qui est un peu ardu. D'abord, il est long. Ensuite, c'est écrit tout petit. Et ensuite, c'est très, voilà, c'est très théologique, c'est un peu ardu. Mais c'est quand même un des plus grands spécialistes actuellement de la question anthropologique. Je pense que cette question, sur laquelle on a déjà commencé la fois dernière, est fondamentale, fondamentale. Fondamentale pour nous orthodoxes déjà, et si vous savez que ce verset Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa, est le verset le plus commenté des pères. C'est des milliers de fois, tous les pères commentent ce verset. Donc ça montre l'importance fondamentale. Et aussi, pourquoi les pères ont tellement réfléchi sur l'homme, c'est parce que c'est quoi l'homme dans la création, et c'est quoi la vraie nature humaine de l'homme. Contrairement à ce qui a été dit depuis saint Augustin, en disant que la nature de l'homme, elle est mauvaise, et que Dieu surajoute une grâce pour qu'elle devienne bonne, les pères disent non, la nature humaine, elle est bonne, parce que Dieu a dit, c'est très bon. Donc la nature humaine, elle est bonne, elle est magnifiquement bonne, c'est le péché de l'homme qui fait que, voilà, qu'il perd, donc les vêtements de peau, etc., hein, la peau, cette opacité qui nous sépare de Dieu et des autres, ces vêtements de peau, c'est eux qui, voilà, c'est eux qu'il faut retrouver la lumière. Pendant que j'y suis, tiens, ça me fait penser. Vous savez que la peau en hébreu se dit or. Or. La peau se dit or. OK? Mais or avec un aïn. Et la lumière en hébreu se dit or. Mais avec un aleph. C'est le même mot au niveau de la sonorité, c'est pas le même mot au niveau de l'écriture. Et tous les rabbins, évidemment, ils sont pas fous, ils ont tous dit Dieu donne des. Voilà, ils ont des vêtements de peau, ils se couvrent de vêtements de peau, et ces vêtements de peau vont cacher la lumière. Parce qu'en fait, avant, ils avaient quoi? Ils avaient des vêtements de lumière. Tu te revêts de lumière comme d'un manteau. D'accord? Donc ça, c'est très très important. C'est le fondement. N'oubliez pas, la nature humaine est bonne. Donc s'il y a quelque chose qui est mauvais en nous, ce n'est pas la nature humaine, c'est notre péché, c'est notre condition de après la chute. C'est parce qu'il y a des milliers de générations qui ont découlé depuis Adam et que, comme voilà, quelque chose qui se transporte comme ça, voilà, on va je ne veux pas dire de mal en pis, mais de désagrément en désagrément, de péché en péché, jusqu'au meurtre et jusqu'à.
Nous avons gardé la corruptibilité.
On a gardé la corruptibilité, la maladie, la mort. Voilà, ça oui. Voilà. C'est là-dedans que nous projette Adam.
Pardon, mais c'est important ce que tu dis parce que c'est aussi dans cette approche différente, cette vision différente qu'a amené Augustin, que nos églises se sont éloignées.
Bah oui, bien sûr, bien sûr.
C'est un peu un point central
Bien sûr.
de l'histoire des églises.
C'est-à-dire que à partir d'Augustin, la tradition latine, qui malheureusement s'est appuyée que sur Augustin sur cette question-là, elle se serait appuyée sur les autres, sur Ambroise, sur Hilaire, sur Jérôme. Voilà, les choses auraient été un peu différentes. Mais elle n'a gardé que Augustin, donc elle n'a gardé que l'aspect le plus rétréci et le plus pessimiste de la nature humaine. Augustin a une vision pessimiste, mais qui est affreuse, quoi. Affreusement pessimiste. Alors que les pères grecs ont une vision optimiste. L'homme est bon, l'homme est lumineux. Il a perdu. Il a perdu. Donc, s'il a perdu, c'est qu'il peut retrouver. S'il l'a jamais eu, bah vous comprenez bien. C'est quand même beaucoup plus dur. Mais s'il l'a perdu, il peut le retrouver. Si je perds le plus grand amour de ma vie, bah, je fais tout pour essayer de le retrouver. Je veux dire, c'est clair. Et donc, je me comporte de manière à le retrouver. Donc, je purifie ce vêtement de peau de manière à ce qu'il redevienne lumière. Vous savez qu'il y a un rite que j'aime beaucoup chez les Juifs, qui est le rite de la fin du Shabbat. La fin du Shabbat, les Juifs font un petit rite qu'on appelle... ça y est, le nom m'échappe. J'ai fait ça 100 fois, bon, ça va me revenir. Où ils allument une petite lumière, vous savez qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière, donc ils allument parce que c'est la fin de Shabbat, et puis on respire des bessamim, hein, des parfums, bessamim, c'est-à-dire on regoute les parfums du paradis, les bons parfums du paradis. Et on approche ses ongles de la lumière, comme ça, et on regarde. Pourquoi ? Parce que pour eux, les ongles, c'était comme ça que tout le corps était, transparent. Transparent, lumineux de cette transparence. C'est extraordinaire. C'est là où on voit que, sur le plan anthropologique, on est très proche de nos frères juifs. Ok. Alors, ça, c'est très important. Bon. Alors, maintenant, ce qui est très important aussi, c'est que, découlant de tout ça, on a perdu, ici en Occident, donc on va revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois, on a perdu la dernière partie de l'homme, les trois parties de l'homme. On pense qu'on a, enfin, certains pensent, d'ailleurs les pères grecs aussi, dont quelqu'un comme Grégoire de Nice le disent, et nos propres offices liturgiques le disent, on parle du corps et de l'âme. Voilà. Donc attention, attention, de quoi on parle quand on parle du corps et de l'âme? De quoi on parle vraiment? Donc j'avais expliqué la dernière fois, donc les trois niveaux. Hein. Donc chez les juifs, ça s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Et que ces trois mots en français, les trois, peuvent se traduire par âme. D'où la confusion, ok ? Nefesh, Ruach, Neshama. Que ces trois mots n'ont pas de correspondance exacte et parfaite avec le grec. Donc ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a eu des problèmes de traduction de langue, et donc on n'a pas réussi à intégrer ce que ça veut dire. Nefesh, ça veut dire la vie. Nefesh, c'est la vie. C'est-à-dire... tout être vivant a une nefesh, il respire. Ruach, c'est l'esprit. Et neshama, c'est l'esprit que Dieu met en l'homme. Et on avait dit qu'il y avait une petite difficulté pour bien distinguer ruach et neshama. Pourquoi ? Parce qu'on parle du ruach HaKodesh, l'esprit saint, dans la Bible. D'accord ? Alors que la neshama, c'est l'esprit que Dieu met en l'homme. Ok ? Et on avait dit qu'il n'y avait pas de correspondance avec les trois niveaux en grec, le soma, le corps, le psyché, la psyché, et le pneuma. Et à côté du pneuma, on va mettre, ben je ne l'ai même pas marqué, vous voyez, comme je suis fâchée contre ce mot-là, tellement fâchée que... on va l'écrire. Qu'on appelle le nous. D'accord ? Bon. Le nous, c'est un mot grec de la philosophie grecque, Platon, Aristote, Socrate, etc., qui parle du nous comme de la fine pointe de l'âme. Et quand on dit âme en grec, traduction psyché. Donc le nous serait la fine pointe de la psyché, et c'est la raison pour laquelle quand on lit des gens comme, comment il s'appelle, Évagre le Pontique notamment, et d'autres de cette mouvance, on parle tout le temps de l'intellect. Dieu illumine l'intellect, l'intellect. Mais pour nous, ça ne veut rien dire en français. Enfin, si, ça veut dire on se croit très intelligent. Voilà. Et on croit qu'on, dans l'intellect. Donc vous sentez, voilà, ça, il faut bien le percevoir. Donc à chaque fois que vous lisez, que ce soit dans un livre de prière ou que ce soit dans un livre religieux, corps et âme ou âme, etc., dites-vous tout de suite de quoi qu'on parle. On parle de neshama, on parle de ruach, on parle de nefesh, on parle de psyché, on parle de pneuma, on parle de quoi? Et tout de suite, il faut rétablir. D'accord? On va le faire, je vais vous donner, on va voir quelques exercices là, de toute façon. Et ce qui est très intéressant, c'est que Saint Paul dit dans la première aux Corinthiens, le premier homme a été une âme vivante, psyché, et le dernier Adam est un esprit, pnoé, hein, donc pneuma, vivifiant. Ça veut dire que au départ, l'homme arrive, il est psyché, il est tout psychologique, il est dans son être psychologique. Et le second Adam, qui est le Christ, il arrive, il est tout pneumatique. Et quand il arrive, il se trouve qu'il va permettre à l'homme de monter du psychique au pneumatique, de monter de, voilà, on dirait nous en, dans l'orthodoxie, de sa nature à sa personne. Je pense qu'on peut se comprendre. Voilà, voilà de laisser monter de l'intérieur toute cette vie divine qu'il a enfouie sous une énorme chape de plomb et de problèmes et d'habitudes et de etc. De trucs psychiques. Ok. Alors vous savez que le pneuma, le nous dans le timé de Platon. Donc, il y a la fine pointe de l'âne qui est placée dans la boîte crânienne. Donc, ça veut déjà tout dire. Donc, le nous, il est placé dans la boîte crânienne. Donc, vous imaginez. Donc, on comprend qu'on traduit par intellect. Hein. Et ce nous serait divisé. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs le nous ou si c'est l'âme dans sa totalité. Le nous, il n'a pas de ontologie propre. Le nous, il est raccroché à la psyché. Il n'a pas d'ontologie propre. Et tout le problème est là. Donc il y a un corps, un psyché, et puis la cerise sur le gâteau qu'on appelle le nous, qui fait partie de la même entité. Il n'y a pas d'ontologie propre. Ça, c'est fondamental. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. L'orthodoxie dit l'esprit a une ontologie propre qui n'a rien à voir avec la psyché. On est sur un autre registre. Donc ça, c'est très, très important. Et dans cette psyché, les platoniciens disent que cette âme psyché contient trois parties, la ratio, la raison, l'irascible et le concupiscible. Et donc il y a aussi une confusion entre les trois parties de l'âme et les trois parties de l'homme. Donc vous voyez la double confusion dans laquelle on tricote. Or, j'ai lu récemment, extrêmement récemment, un texte de Mgr Alfeyev, donc Mgr Hilarion, qui est métropolite à Vienne, si ma mémoire est bonne. Il dit que ces trois niveaux de l'âme, de Platon, c'est obsolète, complètement obsolète. Voilà, que ça n'a plus, ça n'a vraiment, ça vole en éclats. Alors, je n'ai pas tout le raisonnement qu'il fait arriver là, mais pour lui, c'est clair qu'il y a quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est pas au point sur cette question. On pourra y revenir éventuellement pour essayer de creuser. J'espère que vous avez tous votre Bible. On va aller chercher en Romains 8, 15. Je propose la première partie de la pièce, Romains 8, 15, et la deuxième partie de la pièce, 1 Corinthiens 2, 11. Je ne sais pas si c'est dessus. Regardez, peut-être c'est dessus. Bon, bah si c'est dessus, c'est très bien. C'est très bien. Alors, comme ça, vous l'avez sous les yeux. Non, mais je mâche le travail, mais ce n'est pas bien, parce que je ne vous fais pas travailler, du coup. Oui, mais enfin, 15 ou 14. C'est... Vas-y, lis-nous.
15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu.
Alors, l'esprit en personne, l'esprit de Dieu en personne, se joint à notre esprit, le nôtre. Donc il y a bien un esprit. D'accord ? Et c'est pneuma, hein, ici. C'est pneuma, les deux. Hein. C'est pneuma. Très important. On n'est pas du tout dans le nous, hein. Absolument pas. Donc ça, c'est très important. Et ça, il faut bien le garder en mémoire. Donc, l'esprit qu'on a reçu, c'est pas pour qu'on soit dans la crainte, c'est pas pour qu'on soit dans la servitude. C'est pour qu'on soit libre. C'est pour qu'on soit fils. Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme à son image, même s'il a perdu la ressemblance et même si l'image est abîmée. On reste fils parce qu'on a reçu un esprit qui nous fait fils. Et parce que c'est le sien. On va le préciser ça tout à l'heure. Hein. Et en 1 Corinthiens 2, 11, quelqu'un veut lire ?
Nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu.
Voilà, ça c'est clair. Ouais. L'homme psychique n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc si l'homme psychique n'accueille pas, qu'est-ce qui accueille ? C'est l'homme spirituel, c'est-à-dire c'est la partie spirituelle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit. Et c'est parce que cet esprit accueille l'esprit de Dieu, accueille ce qui vient de Dieu, qu'il va pouvoir pneumatiser et la psyché et le corps. Donc il y a une sorte de, voilà, de descente et de remontée d'ailleurs, hein, d'ascension de toute la nature humaine vers l'esprit que Dieu nous donne. Alors, pour aller un peu plus loin maintenant, qu'on a revu en gros, de manière un peu plus simplifiée, ce qu'on a fait la dernière fois. Père Jean Bobok parle du cor absconditus, en latin, cor absconditus, c'est-à-dire du cœur caché, cardia, le cœur caché. Et ce cœur caché, il est fondamentalement et paulinien et pétrinien. Donc, pareil, on va refaire la même chose. Devant, je vous propose de regarder 2 Corinthiens 4, 16. Quand je dis 4, 16, ça peut être un peu avant, un peu après. Hein. 2 Corinthiens 4, 16. Et derrière, 1 Pierre 3, 4 et 2 Pierre 19. Et il y a même Éphésiens 3, 6. Donc, 2 Corinthiens 4, 16. Si quelqu'un veut le lire.
Moi, je veux bien. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Au contraire, même si notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Alors, ici, donc, Paul parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, ok ? En Éphésiens 3, 6, vous pouvez vous représenter l'idée que je me fais du mystère chrétien qui n'a pas été manifesté aux hommes des générations passées, comme il vient d'être présentement révélé par l'Esprit à ses apôtres. Donc le mystère chrétien est révélé par l'Esprit à ses apôtres. Entre guillemets, c'est le même esprit que l'esprit par lequel Dieu parle aux prophètes. Et c'est pas pour rien que dans le credo on dit il a parlé par les prophètes. C'est le même. D'accord ? Donc il y a deux étapes dans la révélation, la révélation aux prophètes, la révélation du Christ par l'Esprit aux apôtres. Ce mystère, c'est que les païens, eux aussi, sont héritiers avec nous, les Juifs, membres du même corps, qu'en vertu de l'Évangile, ils bénéficient de la même promesse, dans le Christ Jésus. Alors maintenant, si on va regarder Pierre, donc il y a cette idée de recevoir l'Esprit, il y a cette idée de l'homme intérieur. Si on cherche chez Pierre, qu'est-ce qu'il veut bien nous lire la première épître de Pierre 3, 4.
Mais au fond de nous-mêmes, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme, Voilà ce qui est précieux au regard de Dieu. C'est ça?
Non.
1 Pierre 3, 4.
Oui.
Chapitre 3, verset 4.
Oui, moi j'ai.
Que votre parure ne soit
que votre parure, voilà. Vas-y.
Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées, mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme, voilà ce qui est précieux devant Dieu.
Voilà.
Ah ben moi j'ai lu qu'à partir de 4. Toi t'as lu à partir de 4.
Mais 4, idées, c'est le milieu de la phrase, donc ça dépend des traductions.
D'accord. Donc voilà, c'est l'idée. Que notre vraie parure soit cachée dans le cœur. Donc c'est le cor absconditus, c'est le cœur caché. Le cœur caché, l'homme intérieur, que ce soit chez Paul, soit chez Pierre, on parle de la même chose. On parle de l'homme qui, justement, dans sa profondeur, n'est plus à la surface du psychique, mais il rentre dans sa profondeur, il rentre dans son intérieur. D'accord ? Donc, gardons à l'esprit, en tout cas, chaque fois qu'on va lire Paul ou Pierre, de mettre en parallèle, de faire une correspondance entre l'homme intérieur chez Paul, ce qu'il en parle à plusieurs endroits, et l'homme caché chez Pierre. D'accord ? Olivier Clément, dans un cours de l'Institut de théologie Saint-Serge, qu'il a dû reprendre dans Questions sur l'homme quand il a fait son livre, va écrire « Certains qui partent de la tripartition paulinienne du corps, de l'âme et de l'esprit » ont davantage insisté sur celui-ci. L'âme désigne le psychisme. Et l'esprit, la transparence personnelle au Saint-Esprit. Ça, c'est intéressant. L'esprit, la transparence personnelle au Saint-Esprit. D'autres témoins, dans le droit fil du symbolisme biblique, ont mis plutôt l'accent sur le cœur. Cardia, hein, en grec. Finalement, on s'est aperçu qu'il s'agissait de deux approches désignant la même réalité. Et l'on a parlé du cœur-esprit. Voilà, ça, c'est le grand mot d'Olivier Clément, le cœur-esprit. Et je pense que c'est peut-être la meilleure façon d'expliquer, le cœur-esprit. Parce que le cœur, il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorité. Le fait qu'on mette cœur-esprit, c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas confondre le cœur avec les sentiments, les émotions et tous ces trucs-là. On est dans quelque chose qui est cœur-esprit. Qui reçoit l'esprit divin dans l'intériorité de l'homme, dans l'homme intérieur. Et il continue, si le cœur est l'en-dedans de l'homme, le péché s'inscrit dans la divergence de la bouche et du cœur. Voilà. Donc vous voyez, le péché s'inscrit entre la bouche, c'est-à-dire ce qui va sur l'extérieur, et le cœur. Et le péché, il est là-dedans. Alors j'ai envie de faire une petite parenthèse, parce que ce qui est arrivé, et que je me suis retenue parce qu'elle n'était pas là, de dire quelque chose par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Là, je ne voulais pas faire remarquer.
Oui, mais j'ai remarqué.
Chapeau. Bien.
J'ai remarqué. Merci. Non, mais je me suis retenue, donc j'étais tellement contente à l'idée merci. Que tu allais pouvoir l'entendre. Que...
Un grand merci.
Je mets juste une petite parenthèse et puis on revient. Juste pour vous dire, voilà, cette histoire de Neshama, Rouar, Nefesh, à quel point c'est complexe parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de régularité. On n'emploie pas toujours le même mot pour la même chose. Voilà. Donc c'est ça qui fait que c'est compliqué. Y compris chez les Hébreux. Et vous allez le voir, parce que j'ai trouvé un Midrash. Dans Midrash Rabbah de Genèse, je me suis régalée. Nishmat Raïm, donc Dieu insuffle un souffle de vie. Nishmat Raïm, c'est l'âme de vie, dit le Midrash. Et l'âme ici dans le sens de souffle. Hein. Et voilà ce que dit le Midrash. L'âme a 5 noms. Alors ça, je ne l'avais pas dit la fois dernière, mais on va le dire aujourd'hui. Mais bon, prenez-le comme ça, mais on ne va pas développer parce que c'est quand même... Nefesh, donc comme je vous dis, hein, Nefesh, Ruar, Neshama, Yerida et Chaya. Yerida, ça veut dire unique, Yachid, seul, unique. Et Chaya, c'est la vie. Alors voilà ce qu'il dit le Midrash. Nefesh, c'est le sang. Ce qui s'exprime. Ce qu'exprime le verset, Deutéronome 12, 23, car le sang, c'est la nefesh. Et nous, comment on le traduit en français? Le sang, c'est la... Comment vous le disiez en français?
C'est la vie.
C'est le sang, c'est la vie. Voilà. Donc nefesh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la vie. c'est ce qui a souffle de vie. Donc nefesh, le meilleur mot pour traduire, c'est pas âme, c'est vie. Vivant ou le vivant. Car le sang, c'est la nefesh, c'est la vie. Rouar, c'est ce qui monte et qui descend. Donc c'est intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure que Rouar, c'était Rouar à Kodesh. Hein. Ainsi que le dit le texte, qui connaît le Rouar, le souffle, des fils de l'homme qui monte en haut et le Rouar des bêtes qui descend vers la terre. Ecclésiaste 3, 21. Donc là, vous voyez le Rouar, c'est plus le Rouar à Kodesh ici, c'est un autre genre. Vous voyez déjà la difficulté. La Neshama, c'est la respiration, c'est ou le caractère ou la respiration. Donc là, il y a un problème de traduction. Bon, je n'ai pas apporté l'hébreu, mais bon, je connais suffisamment. Donc, la respiration. Et pourquoi ? Parce que les gens parlent de la bonne respiration. Raya, parce que tous les organes meurent et la seule qui reste à vivre, c'est la raya. Donc ça, on peut le retenir. Parce que si effectivement, la neshama, l'esprit, le cœur-esprit, c'est ce qui ne meurt pas, chez les juifs, ça s'appellera raya, la vie.
Comment vous l'écrivez ?
Raya ? C'est de l'hébreu, hein ?
Ah, mais c'est en hébreu que vous l'écrivez.
Non, mais d'accord.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est...
On va pas te contredire.
Voilà, d'accord. Merci.
D'ailleurs, quand on dit à propos de la mort, il rendit son souffle.
Oui, mais justement, on va en parler.
C'est bien ça.
Oui, c'est ça. Et Yérida, parce que tous les membres vont par deux, donc les deux bras, les deux yeux, les deux oreilles, les deux jambes, les deux pieds, et que elle, la Yérida, c'est-à-dire l'esprit, elle est unique dans le corps. Yérida, donc Yérida, c'est-à-dire unique. Rabbi Bisné, Rabbi Raya et Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Meir, vont dire, l'âme, alors, est-ce que c'est Neshama ? Il faudra les regarder, remplit tout le corps. Et lorsque l'homme dort, elle monte lui puiser de l'eau, de l'en haut, la vie. Donc quand l'homme, c'est un midrash, hein, c'est une illustration, hein, on n'est pas là pour dire c'est exactement comme ça que ça se passe. La Neshama, quand l'homme dort, elle monte en haut, puiser de la vie. Donc ça veut bien dire qu'elle est en connexion avec l'esprit divin, tout le temps, quoi. Et lorsque Rabbi Lévi dit au nom de Rabbi Hanina, l'homme doit louer le Créateur pour chacune de ses respirations. Comment on le sait ? Car le verset dit que toute Neshama loue le Seigneur.
Tout ce qui respire.
Voilà, que tout ce qui respire. Voilà. Mais là, c'est Neshama, c'est-à-dire c'est tout esprit, tout ce qui respire, mais dans le sens de tout ce qui respire au plus haut niveau, qui est celui de l'esprit. Bon, voilà. Rabbi Shemuel, beau-frère de Rabbi Hanina, compagnon des rabbis, va dire, le texte, il donne, alors voilà, ça montre qu'eux, ils ont très compris que c'était compliqué. Hein. Le texte identifie ici la Neshama avec la Nefesh. Et ailleurs, ils identifient la Neshama avec la Rouar. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. D'où sait-on que ce qui est dit de l'une peut être dit des autres ? Parce que ici comme là, il est écrit la vie. Voilà, la neshama de vie, la nefesh de vie. C'est pour ça qu'il peut y avoir des confusions. Bon. C'est un midrash, mais c'est juste pour dire que depuis l'époque rabbinique, 3e, 2e, 3e, 4e siècle, depuis l'époque des pères, même époque, on est dans les mêmes difficultés à clarifier. Et que le monde d'aujourd'hui exige maintenant cette clarification. Ça devient urgent. D'accord ? Bon, on va continuer, on est là pour ça, on a le temps.
Tu vas écrire un livre alors ?
Bah, le livre, il est déjà écrit, il y en a 700 pages chez Jean Bobok, je vais quand même pas...
Écrire un livre pour la vulgarisation.
Ah, bon, on verra. Pour le moment, j'ai pas le temps. Pour le moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon.
L'âme pour les nuls.
L'âme pour les nuls. Bon, ok.
Bon, j'ai le titre, tu fais la suite.
D'accord. Donc... Donc, le cœur-esprit d'Olivier Clément, C'est le lieu du combat de l'homme, c'est l'en-dedans de l'homme. C'est ce qui est sans fond, irréductible dans l'existence personnelle. Et c'est finalement sa réalité ontologique, c'est le fait d'être l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. Donc l'homme caché dans le cœur caché. Alors, ce qui va nous donner un petit éclairage, c'est que quand on se met dans la littérature hésychaste, on connaît les hésychastes, on connaît la prière de Jésus, on connaît tous les saints pères moines qui ont beaucoup parlé de cette hésychaste, cette tranquillité du cœur, de l'être profond. Et l'hésychasme, il est né pourquoi ? Il est né parce que saint Paul a dit « prier sans cesse ». Comment on fait pour prier tout le temps, du matin au soir et du soir au matin ? C'est un peu difficile. Quand on dort, on ne peut pas prier. Quand on est occupé à faire des calculs parce qu'on est comptable, ben, on n'a pas le temps de prier, etc. Bon. Et donc, ils ont essayé de développer tout un moyen pour dire « si, on peut faire plein de choses en plus et en même temps, le cœur prie ». Mais ce qu'ils ont dit aussi, c'est que pour prier, vraiment, ce qu'ils appellent, hein, et Saint-Sylvain aussi en parle tout le temps, la prière pure, ce qu'on appelle la prière pure, donc le plus haut degré de la prière pure, donc dans la spiritualité hésychaste, c'est celle qui a arrêté tout mental. Tout mental, toute image, toute pensée, toute parole. C'est ça la prière pure. Finalement, c'est quoi la prière pure ? Ben oui, c'est possible. La preuve, c'est qu'ils y arrivent. Donc, si c'est nos modèles, on n'a plus qu'à les suivre. Hein.
À s'entraîner.
À s'entraîner, voilà. Mais vous comprenez bien que... Et on a tous eu... C'est sûr, si on est là, c'est qu'on a tous fait cette expérience. Une fois ou l'autre, on a fait cette expérience où tout le mental s'arrête, même si c'est 2 minutes. Les hélicastes, eux, c'est toute leur vie, quoi. Nous, c'est 2 minutes. Bon. Enfin, moi, vous, peut-être c'est toute votre vie, j'en sais rien. Mais je veux dire, voilà, on a fait cette expérience pendant 2 minutes, tout s'arrête, et on se sent dans une prière. Et c'est quoi cet instant ? C'est qu'on est en communion absolue avec le Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit. On est en communion, il n'y a plus besoin de mots, il n'y a plus besoin. Ben, c'est comme quand on aime quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, ben, on n'a pas besoin de lui parler tout le temps. On est avec lui. On est dans cette relation communionnelle. C'est pareil.
Et
tout ça, voilà, on est hors du temps, on est hors de l'espace, on est hors du mental, on est hors des pensées, on est en présence, on est présent à la présence. Pour moi, si j'ai bien compris, il y en a qui vont peut-être me corriger, là, qui connaissent mieux que moi, c'est la prière pure. Alors, des gens comme Silouane ou Sophronie, eux, ils se mettaient en prière, boum, au bout de 5 minutes, ils étaient dans la prière pure, c'était toute la nuit, quoi. Bon, nous, on n'est pas, enfin, moi, je ne suis pas encore là, mais et parfois, il faut des heures. Pour, voilà, pour décanter tout le tourbillon qu'il y a dedans. Et puis à un moment donné, pouf. Et c'est pour ça que nos offices liturgiques sont aussi longs. C'est pour qu'à la fin de nos offices liturgiques, on entre dans la prière pure. Voilà.
Et la prière pure, c'est un don de Dieu.
Et c'est un don de Dieu. Tout à fait, en plus. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour. Puis une fois qu'on a tout fait pour, ben on attend. Voilà. Hein. Donc, absolument. Et d'ailleurs... Père Sophronie, dans un de ses livres, je n'arrive plus à me souvenir lequel, je crois que c'est celui sur la prière, où il dit que ce jour-là, il se met en prière et il se demande si Dieu va, s'il va venir. D'un air de dire, pas qu'il va venir, parce qu'il est toujours là, mais d'un air de dire, est-ce que le don va être renouvelé ? Voilà. À quel point les grands saints, eux-mêmes, savent que c'est vraiment un don et que Dieu n'est pas obligé de le donner de manière, entre guillemets, excusez-moi le terme, systématique. Et dans cette spiritualité hésychaste, qu'est-ce que nous disent tous les pères, tous ? Qu'il faut faire descendre l'intellect dans le cœur. Il faut faire descendre l'intellect dans le cœur. Donc vous comprenez bien que cette espèce de pactaques de nous, donc ça ne peut pas être le nous, parce que le nous, il doit aller dans le cœur, donc ça ne peut pas être lui. Parce que le nous, une des meilleures façons de traduire le nous, c'est intellect. Donc on est bien d'accord. Bah oui, bah voilà, merci. Bah oui, elle ne comprend plus.
Parce que si dans le cœur, on fait descendre l'intellect, le cœur n'est plus complètement purifiée, justement, pour être en état de...
Mais si, justement, parce que faire descendre l'intérieur dans le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos mentales, notre pensée, notre mental, pouf, il lâche, il descend, et il entre dans cette non-pensée, non-mentale, non. Il entre dans ce cœur profond qui, lui, est plein du Saint-Esprit. Donc, il a lâché. Il tombe, quoi, quelque part. On dit descendre, c'est une bonne image, parce que voilà, parce qu'on dit plutôt, voilà, si on devait, voilà, l'intellect, on le mettrait plutôt là, le nous d'ailleurs, ils le mettent là, hein, les platoniciens, dans le crâne, et le cœur, voilà, certains le mettent plus au niveau du nombril, c'est pas le cœur qui bat, hein ce centre d'où-même, voilà, d'ailleurs, ça peut rejoindre les chakras, hein, le plexus, etc.
Je trouve que ça rejoint surtout, pour moi, tout ce qui est médecine chinoise.
Oui.
Ouais. Là, je trouve que là, quand tu parles, j'ai plein d'éléments qui me viennent, et en l'occurrence, par rapport à la descente, ouais, le laisser tomber, il y a des exercices de respiration. Ouais. Alors, une chose que j'ai appris un jour avec.
C'est bien,
on faisait du symbolisme archétypal, et l'intellect agent, c'est
diaphragme.
Le diaphragme.
D'accord.
Et donc, ouais, quand le diaphragme commence à être juste, à ce moment-là, il y a des dispositions qui favorisent.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la spiritualité zikias, elle ne parle que de ça, de l'intellect qui descend dans le cœur, qui est une manière de dire, voilà, pour expliquer, qu'on lâche ce mental, qu'il se lâche. Il tombe, il n'existe plus.
On dit que c'est toujours le chemin le plus long, hein, de passer de la tête au cœur.
Bien sûr.
Dans la vie de prière.
Bien sûr. Bah bien sûr.
Oui, c'est troublant parce qu'on peut comprendre qu'il est valorisé ce nous si on va trop vite, quoi.
Oui, vas-y.
Non, je dis ça.
Précise.
C'est troublant.
Ouais. Vas-y, précise.
Ce nous, il peut sembler dans toutes ces lectures qu'il est valorisé, alors qu'en fait, il faut lâcher.
Oui.
C'est vrai que moi, ça m'a toujours troublé cette histoire d'intellect, la fine forme de la vécu, c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien.
Bah oui. Alors le problème, c'est ça, c'est un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que les pères grecs, et les grands pères grecs, hein, y compris quelqu'un comme Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, c'est des très grands. Moi à côté, je suis un petit microbe. Hein. C'est des très grands. Ils emploient ce mot nous. Mais comment? Donc si on le traduit par intellect, à mon avis, c'est pas juste, à mon avis. Maintenant, d'autres spécialistes du grec vous diront que c'est très bien, mais moi, je pense que c'est pas bien. Justement à cause de la confusion qu'on a en français. Et aussi parce que, d'après ce que j'ai compris, surtout avec Maxime le Confesseur, etc., et avec des personnes très spécialisées qui ont pensé ces questions, c'est que ce nous que les pères grecs emploient, c'est parce qu'ils sont dans un milieu grec où tout le monde pense à la manière philosophique. Tout le monde pense à la manière. Donc, ils vont employer le mot que tout le monde comprend. Mais ils ne l'emploient pas dans le même sens. C'est-à-dire que le nous, chez les pères grecs, c'est pas du tout le nous du Timée de Platon. Le nous, chez les pères grecs, c'est le pneuma.
Ah,
oui. C'est le pneuma. Vous comprenez? Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on va le traduire par intellect, de deux choses l'une, soit effectivement on va le traduire par intellect parce que c'est le nous de Platon. Et là, à ce moment-là, on peut le traduire par intellect. Et à ce moment-là, cet intellect-là, il faut qu'il descende dans le cœur. Soit on va le traduire par pneuma, selon le contexte et selon ce qu'on... Voilà. Et à moi, je lisais encore Grégoire de Nice hier soir. Et je me disais, mais là, la traduction, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que je sentais qu'il fallait que je mette pneuma. Hein, voilà.
Et parfois, c'est intellect.
Voilà, c'est troublant parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de distinction de vocabulaire. Voilà. Et donc, c'est à nous de rectifier, c'est à nous de dire, bon, et si on veut vraiment savoir, eh ben, on va voir quelqu'un qui... Soit on va chercher le texte grec, soit on va voir quelqu'un qui a le texte grec et puis qui nous montre, quoi. Et donc voilà, c'est cette chose-là qu'il faut... Donc ce nous, quand il est pneuma, ok, on a compris, c'est cette partie qui est ontologiquement autonome, j'ai envie de dire, qui est dans l'homme et qui est le réceptacle du Saint-Esprit. Quand c'est l'intellect, en tant que nous, Saint-Intellect, c'est cette partie rationnelle qui loge dans le cerveau et qui... Voilà, qui toute la journée tourne. Ça va? C'est pas simple. Et on avance, hein, vous avez remarqué, depuis la fois dernière, on avance beaucoup. Hein. Et donc, ce que dit Jean Bobok. L'intellect est en suspens, donc dans la prière pure, l'intellect est en suspens et n'est plus l'ordinateur ni le récepteur de la prière. Voilà. Donc le nous, en tant qu'intellect, ne peut pas être ordinateur ou récepteur de la prière. Ça, c'est, voilà, ça c'est, il faut se le mettre dans le crâne une fois pour toutes. Et donc l'image du cœur ou du cœur-esprit est beaucoup plus claire pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette troisième partie réceptacle du Saint-Esprit. Parce que dans le nous, il y a la raison discursive, la raison résonante, les capacités intellectuelles qui sont toujours derrière ce mot. Voilà. Et qui fait qu'on voit bien qu'on est sur un autre registre. Alors maintenant, on peut lire le petit morceau de Macaire. Je crois que je vous l'ai mis dans le... Est-ce que quelqu'un veut le lire? Oui.
Je peux le lire. Vas-y. La grâce de Dieu grave aussi les lois de l'esprit et les mystères célestes sur les tables du cœur. Le cœur, en effet, commande et régit tout le corps. La grâce, une fois qu'elle s'est emparée des pâturages du cœur, règne sur tous les membres et les pensées, car c'est en lui que sont l'esprit et toutes les pensées de l'âme et son espérance. Par lui, la grâce passe dans tous les membres du cœur. Macaire, homélie spirituelle.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour vous?
Pas vraiment.
Bon, on va le reprendre. La grâce de Dieu grave aussi les lois de l'esprit et les mystères célestes sur les tables du cœur. Donc ça montre bien que ce que dit Olivier Clément quand il parle du cœur-esprit, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la tradition, en tout cas macarienne. Les lois de l'esprit et les mystères célestes s'inscrivent sur les tables du cœur. Voilà. Donc Dieu, dans sa pédagogie divine, veut inscrire en nous son esprit et il va le graver sur les tables du cœur. Tout simplement. Cœur-esprit. Hein, dans ce sens, disons. Le cœur commande et régit tout le corps. Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on fait bien descendre tout dans le cœur-esprit, normalement, comme c'est lui qui est réceptacle de la grâce divine, de l'esprit divin, etc., il doit ensuite commander le reste, c'est-à-dire commander la psyché, commander le corps. Et là, on fera des petits exercices après là-dessus. Faites-moi penser à ça. Quelqu'un l'écrit. Comment faire des exercices? Comment on montre que cette grâce de l'Esprit-Saint commande tout. C'est-à-dire, notre manière psychique de voir le monde, de relationner, etc., et notre corps. Voilà. Nos désirs, nos besoins du corps, etc. Comment l'Esprit, normalement, doit être le gouvernail de notre vie. Hein? D'accord? Une fois qu'elle s'est emparée du parturage du cœur, règne sur tous les membres et les pensées. Bah oui, évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que les pensées vont être orientées de manière spirituelle. C'est ça, être un homme esprit, un cœur esprit. C'est en lui que sont l'esprit et toutes les pensées de l'âme et son espérance. Donc en lui, c'est-à-dire dans le cœur esprit, toutes les pensées psychiques, toute l'espérance, tout ça va se retrouver en lui et donc il va y avoir une transformation. C'est pas pour rien que le livre du Père Jean Bobok s'appelle Métamorphose. Je vais vous expliquer après. Hein. On va expliquer un peu plus cette métamorphose de manière un peu plus. Bon, ça va? Alors. Donc, n'oubliez pas une chose. Le cœur, le cardia des pères, et c'est surtout quelqu'un comme Jean Cassien qui parle beaucoup du cardia, hein, du cœur. Et cette cardiologie hésychaste sera reprise par Grégoire Palamas, qui va dire que le corps absconditus, donc le cœur caché, est le lieu le plus caché de l'être, rend compte du lieu où se rassemble l'intellect, et n'est en aucune façon le cœur charnel. C'est le centre de l'homme, son esprit, son sujet, l'homme intérieur total, l'alcôve la plus intérieure, la chambre intérieure du sanctuaire dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ se trouve depuis le baptême. Ah, ça, c'est une citation de Marc, la 7, Marc le moine. Alors, maintenant, si on revient, il faut faire des va-et-vient pour essayer de mieux comprendre. Si on revient au paradigme où on parle que du corps et de l'âme, le paradigme, ce qu'on appelle dualiste. L'âme, c'est le principe vital qui fait qu'un être est en vie. On a voulu que cette âme, vous savez comment elle se traduit en grec psyché et en latin anima. Anima, donc elle anime. Hein, donc cette anima donc représenterait aussi le psychisme. Donc on la considère selon des facultés cognitives, affectives, instinctives. Et on ne se rend même pas compte qu'en la considérant ainsi, on ne dit rien de sa nature. On se contente simplement d'en décrire les caractéristiques, les propriétés. Et certains l'appellent le moi, dans la psychanalyse, la conscience que nous avons d'être nous-mêmes, d'avoir un corps, etc. Et d'être individué et donc non interchangeable. On n'est pas une personne d'autre, quelqu'un d'autre. Et dans cette vision dualiste, une fois qu'on a dit que l'homme est un composé d'un corps et d'une âme, c'est bon, on a tout dit, parce que l'homme va s'expliquer uniquement par ses deux composantes. Et donc, la mise en valeur de ces deux composantes, du corps et de l'âme, du corps et du psyché, va être l'accomplissement des deux composantes comme la finalité absolue. Et c'est pour ça que le développement personnel est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin d'Esprit Saint, on n'a pas besoin de Dieu, mais Dieu et l'Esprit Saint à la porte. Et puis, on fait son développement personnel par soi-même, tout seul, comme un grand. Voilà. Et ça, c'est merveilleux, ça marche. Mais alors, c'est, si vous voulez faire des souffles, ouvrez un truc de développement personnel. Hein. Mais vous voyez, on tourne en rond dans ce que j'appelle les énergies créées. Et on tourne en rond dans la nature. Alors, c'est bien de développer la nature, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Dieu ne demande pas qu'on néglige son corps, ni qu'on néglige tout son appareil psychique. Il n'a jamais demandé qu'on néglige. Mais attention, il faut l'orienter comme il faut. Alors maintenant, on avance d'un pas. Nous apprenons que cette âme-là, elle est mortelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement unie à son corps qu'elle définit ce que Saint Paul appelle l'homme de chair. Ou la chair. Saint Paul, il dit, oui, mais vous étiez dans l'esprit, vous êtes revenu à la chair. Mais la chair, c'est pas le corps. La chair, c'est ce composé de corps et de psyché qui fait que l'homme est charnel. Georges Florovski avait posé la question de la position des chrétiens vis-à-vis de l'immortalité de l'âme. Et il avait dit, l'immortalité de l'âme, c'est une notion grecque. C'est une notion des philosophes grecs. Alors ça, c'est très très important, parce qu'on est tous persuadés que l'âme est immortelle. Et eux, ils nous disent non, l'âme n'est pas immortelle. Alors là aussi, on va expliquer. Mais il n'empêche que savoir ça, ça nous remet un peu les choses aussi plus claires. Voyez. Et Floreschi, les chrétiens, en tant que chrétiens, donc ils posent la question... Sont-ils nécessairement engagés dans la croyance de l'immortalité de l'âme ? Point d'interrogation. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'ai ce qu'il ajoute après. Ce qui est contraire absolument et inconcevable pour le christianisme, c'est la résurrection. Le christianisme ne peut se concevoir sans la résurrection de l'homme. Donc, il y a tout un parallèle entre l'immortalité de l'homme et la résurrection. Pourquoi on opte ? Comme si on ne pouvait pas avoir les deux. Comme si, si on est dans l'immortalité de l'âme, on est chez les Grecs philosophes. Si on est dans la résurrection, on est chez les chrétiens. Et chez les juifs, entre parenthèses. Parce que les juifs croient aussi en la résurrection de la personne, de l'homme tout entier. Et c'est eux qui nous l'ont transmis. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi redire un peu plus souvent, parce qu'on croit qu'ils n'y croient pas. Mais je peux vous dire qu'ils y croient dur comme fer. Donc, creusons cette idée. Ce que les pères disent. Alors là, le problème chez les pères, c'est qu'il n'y a pas une unanimité. Je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas de dogme sur cette question. Les pères ne sont pas unanimes là-dessus. Et donc, si certains vous disent le contraire, on ne peut pas les targuer de ne pas être orthodoxes. Bien que une majorité quand même, et que c'est ce qui semble être aller un peu plus par là dans l'orthodoxie, c'est ces trois parties de l'homme que Dieu ressaisit dans la résurrection. Si l'âme est créée et qu'elle est créée pour chaque nouvel individu, elle a un début et donc elle a nécessairement une fin. Ce qui veut dire que si l'âme est immortelle, elle ne peut l'être que parce que Dieu va la rendre immortelle, donc elle ne l'est pas par nature, elle l'est par grâce. Théophile d'Antioche, un des pères du IIe siècle, dit quelque chose qui est extrêmement intéressant et que Jean Bobok cite. Par nature, l'homme n'est pas plus mortel qu'immortel. Donc lui, il ne dit même pas l'âme, il dit l'homme. Par nature, l'homme n'est ni mortel ni immortel. Donc c'est très intéressant parce que, voilà. S'il avait été créé dans le principe immortel, il eût été créé Dieu. D'autre part, s'il avait été créé mortel, il eût semblé que Dieu fût la cause de sa mort. Ce n'est donc ni mortel qu'il a été créé, ni immortel, mais capable des deux. Capable des deux. Ça, c'est, je trouve ça génial, quoi. On est capable des deux. À nous d'aller dans le bon sens, quoi. Vous savez, ça rappelle le Deutéronome, le chapitre 30. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu dit à l'homme, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous connaissez ce passage, non ?
Oui, choisis la vie.
Choisis la vie. Voilà. C'est un passage qui est génial. On va le reprendre, parce que en fait, ça veut dire ça. Donc, dès qu'on retourne à la Bible, on peut faire tout le temps des passerelles entre ce que les pères et la Bible dit.
Les références, qu'est-ce que c'est ?
Je vais te les donner, parce que j'ai un comme ça. Si quelqu'un les trouve avant moi, voilà. 30, 19. On va prendre un peu avant, juste pour vous montrer combien le contexte est le même. Je vais prendre un peu avant. Je te présente 15. Deutéronome. Je te présente aujourd'hui la vie avec le bonheur et la mort avec le malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te commande aujourd'hui, si tu aimes le Seigneur ton Dieu, si tu marches dans ses voies, donc il y a des conditions quand même, si tu observes ses commandements, redis deuxième fois, ses lois, ses préceptes, alors tu vivras et tu te multiplieras et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Remettez-vous Adam au paradis. Dieu lui donne un certain nombre de préceptes. Si, immortel. Mais sinon,
si ton cœur se détourne.
Vas-y, lis la suite, Elisabeth.
Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain.
Voilà. Donc c'est clair, hein, c'est... Ouais, ouais. Et là, on est exactement dans la problématique du paradis. De mort, tu meurs. Si tu manges l'arbre de vie, de bien et du mal, de mort, tu meurs.
Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Voilà.
Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. Contre vous. Parce qu'ils sont un peu la nucrète, c'est-à-dire ils, c'est-à-dire nous. Hein. J'offre à ton choix vie et mort, bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie afin de vivre avec ta postérité. Mais Dieu est clair, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Dieu nous demande de choisir la vie. Choisis donc la vie afin de vivre, à la condition d'aimer le Seigneur ton Dieu, d'obéir à sa voix, de lui demeurer attaché, car c'est cela ta vie. Non mais c'est clair comme de l'eau de roche. C'est cela ta vie. Reste attaché au Seigneur. Mais les échasmes, ils disent pas autre chose. Hein. Et la prolongation de tes jours sur le sol que le Seigneur a juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob, tes pères. Donc ça, transposé dans les échasmes, on s'y retrouve, quoi. Donc la fin du livre du Deutéronome, du chapitre 30, pardon. Non, parce qu'il y a encore 31, 32, 32, il y a je ne sais pas combien de chapitres dans le Deutéronome. Il y a 34 chapitres. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause, là, parce que ça fait déjà une petite heure que je parle.
Oui, pour toi aussi.
On va faire une pause, hein.